Philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard, le 17 janvier 90.
Nous allons donc commencer aujourd'hui de voir, on verra jusqu'où nous le ferons, la question 26 de la prima secundae.
Simplicité extraordinaire. Les psychologues étudient
Alors, saint Thomas éveille l'appétit par les objections. Toujours. Vous voyez, il y a une démarche là, philosophique que saint Thomas maintient en théologie. Pour bien comprendre une chose, il faut éveiller l'intelligence. Or, on éveille l'intelligence par des objections. Quand vous voulez réveiller votre cher frère aux récréations, vous commencez par une grosse objection. Il dit, mais non, c'est impossible, ce que tu racontes, c'est pas ça. Mais non, c'est une objection. Le Proterbus, le petit démon, vous l'éveillez comme ça. C'est un moyen très très. Il faut le faire avec beaucoup d'astuce, avec beaucoup de souplesse, parce qu'il ne faut pas scandaliser. Mais c'est une objection. L'objection ici, on lit dans la sagesse, vous voyez bien, la sagesse. C'est le théologien, on lit dans la sagesse, je l'ai aimé la sagesse, je l'ai recherché de ma jeunesse. Or le concupiscible, parti de l'appétit sensitif, ne peut tendre la sagesse qui dépasse le sens. L'amour n'est donc pas dans le concupiscible. Première réflexion, quand vous parlez de l'amour, regardez ce qui est dit dans l'écriture. On dit qu'on a aimé la sagesse, l'amour regarde la sagesse. Donc l'amour n'est pas dans le concupiscible. Aimer le vin, c'est pas aimer la sagesse. Aimer le désert, ce n'est pas aimer la sagesse. Aimer de manger une bonne pomme ou du chocolat, c'est pas la sagesse. Alors, la seconde objection, l'amour semble s'identifier avec toutes les autres passions. Donc c'est pas une passion unique. Saint Augustin écrit en effet, l'amour qui brûle de posséder ce qu'il aime et désire, quand il le possède, il en jouit, il est joie. Quand il fuit ce qui est contraire, il est crainte. Et il a non tristesse quand il doit ressentir l'adversité. Donc Saint Augustin, c'est pas étonnant, c'est une vue globale, toujours platonicienne, il n'analyse pas. Donc l'amour, ça dépend des moments. L'amour peut être en effet désir. C'est la plupart du temps comme ça que psychologiquement vous constatez que vous aimez. Mais des êtres qui disent qu'ils ne s'aiment plus, c'est un petit procédé du reste. Il faut l'appliquer quand on vous demandera conseil. Un ménage de 10 ans est fatigué. Il suffit que le mari revienne du travail pour que immédiatement c'est une dispute. Ça arrive. Ça arrive. Même dans la vie religieuse. Alors c'est plus en face de l'épouse, c'est en face des exigences de la vie religieuse. C'est impossible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, psychologiquement, au point de vue humain? Qu'est-ce que vous dites? Vous ne savez plus si vous vous aimez encore. Séparez-vous pendant un moment. Allez vivre pendant 15 jours seul. Et puis vous, 15 jours seul. Et vous verrez si vous vous aimez. Psychologiquement, c'est par la négation de la présence que vous apercevez si vous aimez l'autre. Je sais bien que c'est toujours risqué, hein. C'est toujours risqué parce que si au bout des 15 jours ou un mois, les deux reviennent. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Catastrophique. Ouais. Alors à ce moment-là, vous prendrez un autre procédé. Mais quelquefois, c'est merveilleux. Parce que l'absence éveille le désir. Et psychologiquement, nous sommes plus sensibles au désir qu'à l'amour. La psychologie regarde le désir et ne regarde pas l'amour. C'est curieux. Et c'est très intéressant de voir ça. Parce que le désir, c'est le conditionnement humain de l'amour. Nous sommes des êtres de désir. Alors, on voit très bien saint Augustin qui n'a pas l'analyse aristotélicienne, mais qui est platonicien. Pour lui, l'amour a différents visages. Le visage du désir, le visage du plaisir, le visage de la tristesse, le visage de la haine. tout ça, c'est l'amour. Ça dépend des jours. Donc, l'amour n'est pas une passion spéciale. Elle est la condition sine qua non de toutes les passions. Ce qui est juste. Très belle objection, ça. Et alors, troisième objection, Denis. Denis nous parle d'un certain amour naturel. Mais l'amour naturel semble relever plutôt des forces naturelles qui appartiennent à l'âme végétative que du concupiscible. On ramène l'amour à l'instinct. L'amour naturel. C'est pas la peine, il n'y a pas de passion, c'est l'amour naturel. Vous aimez le chocolat quand vous avez faim. Mais après un très bon repas, vous êtes gavé, vous n'aimez plus le chocolat. C'est évident. C'est le procédé, vous savez, les gens qui travaillent en usine de chocolat en Suisse. On leur permet les trois premiers jours, même la première semaine, de manger tout le chocolat qu'ils veulent. Ils en attrapent une indigestion et ils sont guéris pour la faim. C'est comme ça que ça se passe. Alors au bout de 6 mois, ils recommencent peut-être à un désir. Alors on recommence. Mais c'est gaver les soies. Eh bien, 7 contrats, donc, après les affections, le 7 contrat de l'autorité, le philosophe écrit dans les topiques que l'amour est dans le concupiscible. Alors, autorité du philosophe, qui est la dernière des raisons, ça ne m'aurait plus produit autre raison. Mais il prend celle-là, c'est curieux, dans les topiques. Dans les topiques, c'est un livre logique, hein. C'est la logique de l'opinion. Alors, le corps de l'article. Alors, vous allez voir, est-ce que ce corps d'article est philosophique ou est-il théologique? Ça, c'est très intéressant de voir ça. L'amour est relatif à l'appétit. Alors, voilà la première chose que fait saint Thomas. On va analyser ça. Amor est aliquid ad appetitud pertinens. Donc, première chose que fait saint Thomas, c'est de relier l'amour à l'appétit. Alors, je ne sais pas si pour vous, appétit est plus évident que l'amour. Pour saint Thomas, oui, puisqu'il rattache l'amour à l'appétit. Amor est aliquid, quelque chose, ad appetitum pertinens. Donc quelque chose qui appartient à l'appétit. L'amour est relatif à l'appétit, puisque leur objet commun est le bien. Quelle est l'unité des deux? C'est que l'amour regarde le bien et l'appétit regarde le bien. Donc le bien unit amour et appétit. Ouais, c'est curieux comme raisonnement. Très curieux. C'est l'analyse. On montre le lien entre l'amour et l'appétit. Ça, c'est pour répondre au point de vue. L'appétit, c'est le désir naturel. C'est le désir naturel. J'ai un appétit. Vous avez faim. Un appétit. L'appétit vis-à-vis du repas, des carottes qui sont en train d'être présentes. Alors, vous avez un appétit. Vous vous rappelez du repas d'hier, hein, quand vous avez faim. On a la réminiscence des oignons d'Égypte. Alors les oignons d'Égypte, c'est toujours le repas d'hier. Alors quelquefois c'est un peu plus loin. Alors cet appétit éveille en vous imaginativement un appétit. Vous avez faim. Donc l'appétit, c'est le désir naturel. Le désir fondamental, c'est instinctif. Donc l'amour est relatif à l'appétit, puisque leur objet commun est le bien. Il s'ensuit que les êtres naturels désirent ce qui convient à leur nature, non qu'ils le perçoivent eux-mêmes, mais selon la connaissance de celui qui a institué la nature, comme nous l'avons déjà dit. Donc il existe un appétit naturel. Cet appétit naturel n'a pas besoin de connaissance personnelle pour s'éveiller. Il présuppose la connaissance de celui qui a créé cet appétit. Vous voyez, on est en théologie. Un philosophe ne pourrait pas dire ça. Donc là, c'est vraiment un raisonnement de théologien. L'appétit naturel fait appel à la sagesse de Dieu. Ça, c'est le regard du théologien. L'appétit naturel implique un ordre naturel vers le bien. Et ça, c'est en fonction de la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qui a voulu que vous ayez un appétit vis-à-vis des carottes? Quand on a faim, vous avez du pain, c'est encore mieux. Vous avez du bon vin, c'est encore mieux. Vous avez un appétit naturel vis-à-vis du pain, vis-à-vis du riz. D'où vient cet appétit naturel? En dernier lieu, vous le constatez, c'est un fait. Moi, je le constate en philosophe. Mais dans un jugement de sagesse philosophique, je dis cela provient de celui qui est le premier à penser ce qu'est la nature humaine. La nature humaine implique la vie végétative. La vie végétative implique un ordre vers l'aliment, qui est le bien fondamental du vivant. Le bien fondamental de notre vie végétative, c'est le pain. Et c'est l'eau. Et c'est le vin. Et c'est les lentilles. Oui, c'est ça qu'on appelle l'appétit naturel. Ah, vous voyez bien la définition que donne saint Thomas d'appétit naturel. Ça, c'est très important. Or, il est un appétit qui n'est pas consécutif à la perception de celui qu'il désire, mais à la connaissance d'un autre. Cet appétit se nomme appétit naturel. En effet, les êtres naturels désirent ce qui convient à leur nature, non qu'ils le perçoivent eux-mêmes, mais selon la connaissance de celui qui a institué la nature, comme nous l'avons dit. Le petit animal qui vient de naître n'a pas besoin de connaissance, tout de suite. Il cherche à téter sa mère. C'est très curieux, ça fait bien partie de cet appétit naturel. Il y a un instinct, ce qu'on appelle l'instinct. Et cet instinct, il provient fondamentalement de la sagesse de Dieu. Vous voyez, c'est très intéressant parce que ceci est parallèle à la quinta via de saint Thomas, les voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Regardez la quinta via et regardez ce petit raisonnement. Vous verrez qu'il y a un parallélisme entre les deux. Mais c'est pris de deux manières totalement différentes. D'un côté, j'explique qu'est-ce que c'est que l'appétit naturel. De l'autre côté, je me sers de l'appétit naturel pour découvrir un être premier. Les deux se tiennent. Il y a un autre appétit afférent à la perception du sujet, mais qui la suit nécessairement et non en vertu d'un libre jugement. C'est l'appétit sensible des animaux. Chez l'homme, cependant, il participe quelque peu à la liberté, dans la mesure où il obéit à la raison. Enfin, il existe un autre appétit consécutif à une connaissance du sujet et procédant selon un libre jugement. C'est l'appétit rationnel ou intellectuel que l'on nomme volonté. Donc, saint Thomas précise qu'il y a trois appétits. Un appétit instinctif, naturel. Un appétit qui suit la connaissance sensible, un appétit qui suit le libre arbitre. Vous voyez, ce ceci présuppose toute une enquête philosophique. En chacun de ces appétits, on appelle amour le principe du mouvement qui tend vers la fin aimée. Alors là, vous avez une définition de l'amour. En chacun de ces appétits, l'amour est dit ce qui est principe du mouvement tendant dans la fin aimée. Dans l'appétit naturel, le principe de ce mouvement est la connaturalité du sujet avec l'objet de sa tendance. On peut l'appeler amour naturel, comme la connaturalité même que crée la pesanteur d'un corps lourd avec le lieu qui lui convient, peut-être appelé amour naturel. Pareillement, l'adaptation de l'appétit sensitif ou de la volonté à quelque bien, c'est-à-dire la complaisance même pour le bien, est appelée amour sensible, amour intellectuel, rationnel. L'amour sensible est donc dans l'appétit sensitif, comme l'amour intellectuel est dans l'appétit intellectuel. Il se trouve précisément dans le concupiscible, car il se définit relativement au bien absolu et non au bien ardu, qui est l'objet de l'irascible. Donc vous voyez ce raisonnement très curieux. Vous ne l'auriez pas inventé. Ça, j'en suis sûr. C'est très très curieux. Et c'est, je ne sais pas si ça vous éclaire beaucoup, mais à première vue, ça n'éclaire pas beaucoup. Il faut entrer, j'allais presque dire, dans le jargon de saint Thomas pour voir. Ah, c'est très éclairant. L'amour, qu'est-ce que c'est? Essayez de définir ce que c'est que l'amour, vous-même. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Je ne sais pas ce que vous mettriez. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Je suis sûr que vous ne passeriez pas par l'appétit. Vous essayeriez de définir directement l'amour. Pourquoi saint Thomas passe-t-il par l'appétit? Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut entrer dans saint Thomas. Il faut se poser des questions, parce que ce n'est pas du tout comme naturel. Pas du tout. C'est un théologien qui fait œuvre de théologie scientifique pour préciser scientifiquement ce qu'est l'amour. Autant qu'on le peut. Qu'est-ce qui est plus connu que l'amour? C'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qui est plus connu que l'amour? C'est l'appétit. Pourquoi l'appétit est-il plus connu que l'amour? C'est que pour saint Thomas, l'appétit, c'est directement relié à la nature. Il y a un appétit naturel. C'est l'amour face au bien. Alors, il y a un appétit naturel qui suit directement la nature. Pour l'homme, pour la nature vivante. Il y a un appétit qui caractérise le vivant. Et il y a le point de vue, donc la nature vivante, la nature humaine. Il y a un appétit qui caractéristique l'homme. La nature tout court, appétit naturel. La nature vivante, appétit sensitif ou sensible. C'est la passion. Et pour l'homme, l'appétit spirituel ou l'appétit rationnel, l'appétit intellectuel qui suit l'intelligence et qui est propre à la nature humaine, Tu as besoin de respirer. Donc, il y a en vous un appétit instinctif qui regarde ce bien sensible, ce bien naturel. Il y a en vous un appétit sensible, passionnel, qui implique la connaissance. Bah, vous passez le matin, pas ici, mais anciennement, vous passez le matin, n'ayant rien mangé, en face d'une boulangerie, où il y a une odeur extraordinaire. Grâce à l'odeur, hein, vous commencez à avoir faim. C'est bien évident. Et vous dites, ah, si je pouvais avoir ce petit pain frais. La passion qui s'éveille. La passion s'éveille par les connaissances sensibles. Et l'odorat éveille ça. Ou le toucher. Ou le regard. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des vitrines. Vous voyez, des quantités de dindes plumées. Prêtes à passer au four. Simple fait, et, oh, si, si, et le gosse qui voit ça, il dit, maman, achète ça pour le repas. Mais la connaissance éveille la passion. Et puis, il y a la réflexion de la mère. Combien ça coûte? Ça, c'est la réflexion de l'économie prudentielle. Si ça coûte pas cher, on va l'acheter. Si ça coûte un peu trop cher, non, non, non. Passe. Oui. Et ça, c'est la raison. L'appétit rationnel qui juge si c'est bien ou non. Donc, vous voyez, c'est constant et les trois sont liés. Le gosse est beaucoup plus éveillé que la mère vis-à-vis de l'appétit sensible. Un gosse, c'est passionnel. Et c'est passionné. C'est extraordinaire. Tandis que quand il a reçu beaucoup de touches dans sa vie, sa mère lui dit non, ça coûte trop cher, non, ça coûte trop cher, non, ça coûte trop cher. Au bout de trois fois, il comprend qu'il ne faut plus le dire. Il y a eu un été noir. Et quand l'été noir était trop fort, parce que l'autorité était trop forte, en disant non, 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 non. Pour toute la vie, on a un été noir sur la tête. Et il y a des gens qui vivent avec un été noir sur la tête, ils n'ont plus de passion. Plus rien. Enfin, comme je te pousse. Il n'y a plus ce ressort intérieur. C'est ça qu'on dit psychologiquement. Le ressort a été cassé à cause d'une autorité trop forte. Et là, il n'y a plus de passion. Plus rien du tout. Il n'y a que des refoulements. Des antipassions. Des refoulements. Vous repliez sur vous-même. Donc, voyez, c'est extrêmement simple d'étudier l'amour par l'appétit. Pourquoi? Parce que l'appétit, pour le philosophe, c'est le lien de la nature à l'égard du bien. Et ce lien de la nature à l'égard du bien implique trois degrés de vie. Et donc, vous pouvez tout de suite comprendre la diversité d'appétit et par le fait même comprendre que l'amour se situe à des niveaux différents. Et voyez, c'est grâce à l'analyse du vivant, par le point de vue de l'appétit, que vous pouvez faire ça. Vous pourriez le faire autrement. Vous pourriez dire que l'amour est ordonné au bien. C'est sûr. L'amour, c'est la coopération du bien et du vivant, capable d'atteindre ce bien. C'est un fruit, l'amour. Tandis que l'appétit n'est pas un fruit. Et donc, est plus immédiatement connaissable. L'amour, c'est le fruit du bien et de l'appétit. L'appétit est éveillé par le bien et produit en lui un amour naturel, un amour passionnel, un amour spirituel. Mais l'amour est toujours quelque chose de complexe. C'est pour ça que je ramène l'amour à quelque chose de simple, qu'est l'appétit. est quelque chose de simple, qui implique un ordre vers le bien. Vous voyez pourquoi saint Thomas ramène cette étude de l'appétit, cette étude de l'amour à l'appétit. Faire quelque chose de plus connaissable pour lui, philosophe. Et pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est que l'appétit, alors à ce moment-là, il dit, mais l'amour, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai. Vous avez une connaissance du vécu de l'amour. Et vous n'avez pas de connaissance du vécu de l'appétit. Alors, dans une perspective phénoménologique comme la nôtre, on veut tout de suite regarder ce que c'est que l'amour. Il y a un vécu d'amour. Ah, oh, ce que j'ai aimé. Cette personne. Heureusement qu'elle n'est plus présente, parce que comme ça vous pouvez considérer, garder ce souvenir extraordinaire de cet amour qui n'a pas été fatigué, alors qu'il est resté dans une espèce de jeunesse extraordinaire. C'est pour ça qu'on se rappelle toujours des amours de sa jeunesse. Tout le temps. C'est une spontanéité extraordinaire. Et c'est de l'amour vécu, c'est du vécu l'amour. Tandis que l'appétit, c'est pas du vécu. Et le bien non plus. Et c'est pour ça que je dis que l'amour est un fruit. La phénoménologie consiste à regarder directement le vécu. Saint Thomas ne regarde pas directement le vécu. Parce que le vécu est toujours complexe. Et donc vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Il faut l'analyser. Or, quel est, comment ce vécu existe, ce vécu qui est l'amour. Il implique un lien vers l'appétit, un lien vers le bien. Il est donc le fruit d'un appétit qui tend vers le bien, qui est actué par le bien. Le fruit, la réaction, c'est un amour naturel, un amour sensible, un amour spirituel. Vous avez donc tout de suite, dès que vous parlez d'amour, attention, de quel amour parlez-vous? Saint Thomas ne donne pas tout de suite une définition d'amour. Il montre tout de suite les trois niveaux d'amour. Étant donné la complexité de l'amour. Alors, est-ce que vous parlez de l'amour instinctif, naturel? Est-ce que vous parlez de l'amour sensible, passionnel? Est-ce que vous parlez de l'amour spirituel? Donc, on répond à la question, l'amour est-il dans le concupiscible? Oui, il y a dans le concupiscible un certain amour. Voilà la réponse. Mais tout amour n'est pas dans le concupiscible. L'amour n'est pas prisonnier du concupiscible. L'amour se situe tout de suite à trois niveaux différents. Mais on fait des pas de chiant comme ça. Alors, je vois la réponse aux objections. Une fois qu'on a compris ça, elle est facile. Donc, première objection. Le texte cité, qui est le texte de la Bible, le désir de la sagesse. Le désir de la sagesse relève d'un amour spirituel, tout simplement. La seconde objection, l'amour est appelé crainte, joie, désir et tristesse, non par identité avec ses passions, mais en tant qu'il est leur cause. On va donner tout de suite à l'amour un visage différent, comparativement à la joie, comparativement à la fuite, comparativement à la haine. L'amour est cause de toutes ces différentes passions. Alors, il y a l'expression de saint Thomas qui est très belle. Amor dicitur esse timor, crainte, godium, joie. Cupiditas, désir, et tristesse, non quidem essentialiter, sed causaliter. Alors comprenez bien cette distinction que fait saint Thomas. Non essentialiter, sed causaliter. la source. Essentialitaire, c'est l'identité. Donc, entre amour et désir. Qu'est-ce que je fais ? Je montre qu'il n'y a pas d'identité. Tout amour n'est pas désir, et tout désir n'est pas amour. Mais il y a un ordre. L'amour est source du désir. Quand vous avez un désir passionné, vous découvrez à la source de ce désir un amour. Et si vous pouviez éteindre cet amour, vous êtes, immédiatement le désir serait éteint. Ça, c'est sûr. Intéressante, essentialitaire, causalitaire. Alors enfin, l'amour naturel n'existe pas seulement dans les puissances de l'âme végétative, mais dans toutes les puissances